Vous aimez la bière, le fromage? Votre garde-robe est essentiellement composée de vêtements noirs, sombres ou peut-être aussi de rouge, orange ou cyan? Vous portez un parfum fleuri et vous lavez avec des savons odorants car vos pieds exhalent une forte odeur, comme le reste de votre corps d'ailleurs? Si en plus vous êtes enceinte, alors sachez que vous êtes particulièrement attirante pour cet insecte en manque d'affection, j'ai nommé le moustique. Bien sûr, il ne s'agit là que d'un aperçu des multiples recherches passées et en cours pour comprendre comment les moustiques nous repèrent et pourquoi ils vont plutôt vers certaines personnes que vers d'autres. Il en ressort notamment que, contrairement à ce qu'on croit souvent, la lumière les intéresse peu, que c'est surtout le CO2, notre respiration, qui leur signale notre présence, ainsi que nos odeurs corporelles. Celles-ci sont un héritage génétique, mais pas que. Elles sont aussi induites par la présence de certaines bactéries à la surface de notre peau. Qui boit de la bière et mange certains fromages, accueille leurs ferments, responsables de ces odeurs si attractives pour les moustiques. Grâce à leurs antennes pourvues de soie, ces petits insectes n'en ratent pas une miette. Vous avez beau feindre le calme et contempler stoïque la Garonne, vous les sentez tapis dans l'ombre et regrettez déjà le demi que vous venez de boire. Et vous avez bien raison, car ils sont capables de capter vos odeurs jusqu'à plusieurs dizaines de mètres à la ronde. La suite logique, vous la connaissez. Ils viendront percer votre peau avec leur trompe, appelée doctement proboscis, jusqu'à atteindre un de vos vaisseaux sanguins. Cette trompe est composée de deux canaux. Par l'un, le moustique envoie sa salive à la fois anesthésiante, pour que vous ne sentiez rien et qu'il puisse se gorger de votre sang tranquille, et anticoagulante, pour pouvoir aspirer par l'autre canal un sang fluide, comme on sirote un jus avec une paille. La piqûre ne nous fait donc pas de mal en soi, le moustique n'injectant aucun venin. Les démangeaisons que nous ressentons viennent de notre système immunitaire qui se met en alerte parce qu'un liquide étranger vient de le pénétrer. Cette réaction va parfois jusqu'à l'allergie. Attention, si une grande partie des espèces de moustiques consomment du sang, seule une minorité de ces hématophages prélève celui des humains. Et au cas où vous l'ignoriez, seules les femelles piquent. Les mâles sont végétariens. Ils se satisferont du nectar des fleurs et du suc sucré contenu dans les plaies des arbres ou les matières organiques. Les femelles, elles, ont besoin de sang car il contient notamment les protéines nécessaires à la formation de leurs œufs. Alors, à peine fécondées, elles partent planter leur proboscis, nous prélèvent quelques gouttes de sang et après avoir digéré, vont pondre leurs œufs à la surface de l'eau sous la forme d'un petit radeau blanc. Chacun de ces radeaux est composé d'environ 100 à 200 œufs en fonction des espèces et une femelle peut pondre de 1 à 4 fois dans sa vie, qui ne dure pas plus de quelques semaines. Notez que les mâles, eux, vivent seulement quelques jours le temps de la fécondation. À moins que... Des espèces de moustiques, on en connaît environ 3500 dans le monde. Seules 65 sont présentes en France. Celui qu'on rencontre le plus souvent chez nous, notamment à Toulouse, s'appelle Culex pipiens, le moustique commun. Culex, aiguillon en latin, tu m'étonnes. On le reconnaît parce qu'il a le corps brun et les ailes transparentes quand le célèbre moustique tigre Aedes albopictus, généralement plus petit, arbore des rayures noires et blanches, d'où son nom. Mais surtout, il est plutôt actif la nuit, quand le moustique tigre est actif en journée, principalement le matin et à la tombée du jour. Et c'est lui qu'on entend. Le tigre est trop lent pour faire du bruit. Le vrombissement aigu qui nous remplit les oreilles est en effet produit par les vibrations ultra-rapides des ailes qui battent entre 600 et 2000 fois par seconde, ce qui est considérable pour un insecte de cette taille. Le moustique doit ce record à l'utilisation d'un mécanisme de vol jamais vu ailleurs, mais trop technique pour qu'on s'y attarde ici. Notez plutôt que ce vrombissement lui est bien utile, car il sert aux deux partenaires à se retrouver pour se reproduire. Des chercheurs de l'université Cornell à New York ont montré que chez Aedes aegypti, présent en France uniquement à Mayotte, aux Antilles et en Guyane, mâles et femelles modulent la fréquence de leur battement d'ailes jusqu'à trouver l'harmonie nécessaire à leur accouplement. Mais au-delà du désagrément auditif et cutané, les moustiques sont craints pour être vecteurs de nombreuses maladies et seraient responsables de la mort d'environ 700 000 personnes par an dans le monde. C'est par leur salive qu'ils peuvent transmettre des maladies. Bien sûr, tous ne sont pas des criminels en puissance. En France, l'inquiétude porte sur le moustique tigre, car il peut être vecteur des virus Zika, du chikungunya et de la dengue. En janvier 2023, des moustiques tigres étaient présents dans 71 départements métropolitains. Ailleurs, d'autres transmettent aussi, entre autres, la fièvre jaune, l'encéphalite japonaise, mais aussi des maladies parasitaires comme le paludisme. Il est ici intéressant de souligner que les humains, s'il se passerait bien d'être piqués et contaminés, ne sont pas tout à fait étrangers au destin de ces insectes volants. Dès le néolithique, on a cherché à domestiquer le vivant par l'agriculture et l'élevage. Puis au fil du temps, on a intensifié la transformation des paysages et avec eux, des écosystèmes. Cette dynamique a généré des rapprochements entre des espèces qui vivaient jusque-là chacune de leur côté. Et de nouvelles relations se sont créées, certaines dangereuses pour ce qui est de la transmission des maladies, au bétail comme à l'humain. Nos activités ont ainsi accompagné l'évolution des populations de moustiques. En 1863, des moustiques londoniens, initialement amateurs de sang d'oiseau et qui présentaient une période d'hibernation...
Oui, parce qu'on se demande souvent ce que font les moustiques en hiver. Et bien certains, comme Culex pipiens, hibernent dans des grottes, des greniers, des troncs. Mais d'autres espèces passent aussi la période de froid à l'état de larves et même d'œufs, mettent en pause leur système vital jusqu'aux prochaines chaleurs. Ce qu'on appelle la diapause, comme chez les odonates. Fin de la parenthèse.
En 1863, donc, ces moustiques sont tranquilles en hibernation dans les cavités du métro londonien, alors en construction. Au printemps, à leur réveil, piégés dans les galeries, certains se mettent à piquer non pas des oiseaux, mais ce qu'ils ont sous le proboscis. Rats, souris et humains. Ils ont d'ailleurs largement profité des bombardements nazis pour attaquer les réfugiés en sous-sol. Cette évolution a donné une nouvelle espèce, désormais bien distincte de celle de surface, et qui, elle, n'hiberne pas. Mais sans même parler de nouvelles espèces, l'intensification des échanges planétaires produit des mouvements de population chez les moustiques, embarqués dans nos véhicules, ou dont les œufs ou les larves sont trimballés avec des marchandises et finissent leur développement loin de leur lieu de naissance. C'est ainsi qu'Hawaï, qui n'en avait pas, en vit débarquer en 1826, avec les navires européens. Pas de chance, fin 19e, début 20e, certains portaient le paludisme aviaire qui tua une grande partie des oiseaux endémiques de l'archipel. Quant à Aedes albopictus, le fameux tigre, venu d'Asie, il est arrivé en France dans les années 2000 via des pneus usagés. Sinon, il serait resté tranquille, car il ne vole jamais bien loin qu'à quelques centaines de mètres du point d'eau où il est né. En revanche, c'est une espèce qu'on dit très adaptative, c'est-à-dire qu'elle s'acclimate facilement et peut piquer tant les humains que les animaux. Les femelles peuvent hiberner, et leurs œufs et larves sont particulièrement résistants aux grandes chaleurs comme au grand froid. Avec le réchauffement climatique, la température des eaux augmente, ce qui accélère le développement des œufs et des larves. Les moustiques se plaisent en ville. Les sols et matériaux imperméables sont propices aux eaux stagnantes, vides sanitaires, soucoupes de pots de fleurs, bouches d'égouts, caniveaux. Et alors un stock de sang frais, je ne vous dis pas. D'autant qu'il n'y a pas beaucoup de prédateurs. Les populations d'hirondelles baissent, celles des chauves-souris ne sont pas non plus au top, et les batraciens en ville, bof. Sauf que quand les moustiques deviennent trop nombreux, on a tendance à ne plus les supporter. On les considère comme une nuisance. Alors, cela fait des années que l'on tente par tous les moyens d'éradiquer ces insectes qui ont survécu à bien des épreuves au cours de leurs 70 millions d'années sur Terre. Assèchement des marais, drainage, mais aussi pulvérisation d'insecticides. Le DDT, par exemple.
Dichlorodiphényltrichloroéthane.
Créé à la fin du 19e, devient l'insecticide le plus utilisé à partir de la Seconde Guerre mondiale. En 1948, le prix Nobel de médecine est même attribué à Paul Hermann Müller pour, je cite, « sa découverte de la grande efficacité du DDT comme poison contre plusieurs arthropodes », un ensemble d'espèces dont font partie les moustiques. Le produit est interdit dans pas mal de pays dès les années 70, après la découverte des dégâts qu'il occasionne sur notre santé et sur l'environnement, même si certains l'utilisent encore car il est efficace et peu coûteux. À la fin des années 70, on développe le BTI, une arme bactériologique qui s'attaquerait spécifiquement aux larves des moustiques et a priori qu'à elles et à des mouches noires. Mais bon, il convient de noter que dans ces luttes insecticides, dès qu'on arrête de traiter, les moustiques reviennent. Et puis, l'évolution nous met souvent des bâtons dans les roues, car ces petits insectes deviennent résistants à certains produits. Alors les apprentis sorciers jouent des jeux d'équilibre entre zones traitées et non traitées pour assurer un mélange génétique et éviter que tous les individus mutent en moustiques résistants. D'autres préconisent la manipulation de leur génome. Au Brésil, pour lutter contre la dengue, on a lâché des mâles stériles et on envisage désormais de faire des élevages de moustiques infectés d'une bactérie qui empêche de transmettre la dengue aux humains. En se reproduisant, les mutants infectent à leur tour les moustiques sauvages et réduisent ainsi la propagation du virus. Mais ça ne suffit pas. Dans une tribune au New York Times, la biologiste Olivia Judson a, elle, proposé de perpétrer un spécicide pour se débarrasser de 30 espèces vectrices de maladies graves ou mortelles. « Nul n'est irremplaçable », argumente-t-elle. Mais quelles espèces prendraient leur place ? Rappelons quand même que les moustiques constituent la nourriture de pas mal d'espèces déjà fragilisées. Mais aussi, et on le sait moins, qu'ils sont des pollinisateurs et que dans les régions arctiques, ils sont même indispensables aux plantes et aux fleurs. Enfin, leurs larves filtrent l'eau et contribuent à produire de la matière organique. Si le risque sanitaire est réel, les risques écologiques le sont aussi. Et l'expérience semble montrer qu'avec le second vient souvent le premier. De nombreux scientifiques appellent donc à réguler les populations par des mesures de prévention sur les eaux stagnantes et l'usage de moustiquaires notamment. Affaire à suivre.